France Inter.
Bonjour à tous, c'est un géant qui écrase les prix mais dont le modèle économique inquiète, le site en ligne Shein, numéro 1 de la vente de vêtements fabriqués à des coûts très bas. Bonjour Élodie Guéguin.
Bonjour Benoît.
Vous avez enquêté sur ce leader chinois de la mode jetable, la fast fashion, et qui déploie en France un intense lobbying pour tenter de contrer une loi qui veut réguler ce secteur. Et puis nous recevrons Claire Billet, bonjour.
Bonjour Benoît.
Alors vous avez réalisé pour France 5 un documentaire qui lève le voile sur un secret d'État, l'utilisation par la France de l'arme chimique pendant la guerre d'Algérie.
Secret d'info, Benoît Colomba sur France Inter.
C'est l'histoire d'un succès fulgurant, celui d'une marque chinoise devenue en seulement quelques mois numéro 1 chez les 15-24 ans.
Je suis consommatrice, le top c'est Shein.
Je suis complètement accro.
Le site de vêtements en ligne Shein doit son succès à ses prix les plus bas du marché.
Voilà extrait d'un reportage sur TF1 diffusé le 29 août 2023 sur le phénomène Shein et ses produits à bas coût qui inondent l'Europe et les États-Unis, provoquant aujourd'hui la réaction du président américain Donald Trump avec ses droits de douane, mais aussi la réaction de l'Europe et des parlementaires français. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, Élodie Guéguin, il faut rappeler ce que représente exactement cette marque Shein.
Oui, Shein, ça vient de She Inside, qui était le nom de la marque à sa création en Chine en 2008. Elle était alors spécialisée dans la confection de robes de mariée, avant de devenir, donc, depuis quelques années, le mastodonte de la mode à bas coût. La marque chinoise pèse aujourd'hui près de 60 milliards de dollars.
Et ce succès, il concerne aussi la France.
Oui, un tiers des Français ont déjà acheté des vêtements Shein. Elle est d'ailleurs l'enseigne de mode pour laquelle les Français ont le plus dépensé l'an dernier, selon Gilda Mainviel, le directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode.
Avec des prix moyens autour de 10 euros, Shein est le premier metteur sur le marché en France. Autrement dit, c'est l'entreprise qui vend le plus de vêtements sur le marché français en quantité. Et donc, c'est une prise de part de marché fulgurante.
Et ça, comment on l'explique ?
Eh bien, par une offre sans commune mesure. Aujourd'hui, si vous vous baladez sur le site de Shein, vous avez accès à 470 000 modèles disponibles. Et ça ne s'arrête jamais, explique Pauline de Brabander. Elle est responsable campagne et plaidoyer pour l'ONG Zero Waste France.
Shein va mettre jusqu'à 1000 à 2000 nouvelles références, nouveaux modèles par jour sur son site internet. Ce qui est énorme parce qu'il y a encore 20 ans, il y avait 2 à 4 collections par an au sein des marques, même de fast fashion. Aujourd'hui, on est plutôt autour d'une cinquantaine. Et Shein, c'est effectivement un renouvellement des collections quotidiens. En fait, c'est ça qui est assez impressionnant en termes d'effet, c'est-à-dire qu'il y a une incitation à surconsommer, à aller voir tous les jours les nouveaux produits. Et il y a effectivement l'incitation aussi par les promotions permanentes. C'est-à-dire que vous allez sur leur site, vous avez forcément des promos, vous avez des ventes privées exceptionnelles tous les jours. Donc ça, c'est aussi des incitations à la surconsommation et des prix très très bas.
Et cette surconsommation, elle a des effets très concrets.
Oui, et c'est ce que constate notamment Yann Rivoilan, le président de la Fédération du prêt-à-porter féminin.
J'ai des témoignages horribles de personnes où on s'aperçoit que chez eux, il y a 1000, 2000, 3000, 4000 produits Shein qui ont été achetés. Où leur seul plaisir, de par l'enfermement cognitif dans lequel ils sont avec ce type de plateforme, et d'acheter, de réacheter des produits parce qu'il y a des promotions.
Et en plus de cette forme d'addiction à la surconsommation, il y a un autre problème, Élodie, et qui concerne cette fois la qualité des produits Shein.
En effet, certains d'entre eux ne sont pas conformes aux normes européennes. Le gouvernement entend donc renforcer les contrôles. Les entreprises d'e-commerce devront payer pour ces contrôles une taxe qui s'appliquera dès l'année prochaine sur les petits colis.
Et l'Union européenne compte aussi prendre des mesures.
Oui, il y a 3 mois, elle a lancé une enquête sur Shein pour la vente de produits illégaux et des pratiques commerciales déloyales, parce que l'Europe croule sous ses paquets de faible valeur. L'année dernière, ce sont 4,6 milliards de petits colis qui sont entrés dans l'Union européenne. La très grande majorité provenait de Shein. Des colis qui arrivent en seulement quelques jours, ce qui pousse, une fois encore, à la surconsommation, selon la députée Horizon Anne-Cécile Violant, qui est spécialiste du sujet.
les conditions de livraison extrêmement rapides par voie aérienne font que les consommateurs vont acheter vraiment en masse. Ils ne vont pas forcément renvoyer s'ils se sont trompés de taille, vont parfois acheter plusieurs tailles et garder ceux qui ne vont pas, vont parfois ne pas porter les vêtements. On sait que sur des sites de vente de seconde main, on a des produits Chine qui sont encore sous enveloppe, donc qui n'ont jamais été portés. Donc ça montre bien à quel point il y a une espèce d'ultra-consommation de ces produits qui termine clairement en déchets puisque les gens ne les portent pas. Et on le sait de toute façon qu'ils ne les portent pas longtemps.
En effet, la durée d'un vêtement Chine n'excède pas 65 jours selon des tests réalisés par l'association En Mode Climat.
Bon, mais les vêtements, ça se recycle.
Alors le problème est que les vêtements Chine sont fabriqués essentiellement en polyester qui est issu du pétrole et aujourd'hui, moins de 5% des vêtements Chine sont recyclables.
Mais les vêtements non recyclés peuvent aussi avoir une seconde vie.
Alors c'est vrai, notamment dans les ressourceries et les associations de type Emmaüs, c'est là où finissent parfois les vêtements invendus de la fast fashion et c'est tout bénéfice pour des marques qui peuvent récupérer un avantage fiscal dans cette opération.
Un avantage fiscal, c'est-à-dire ?
Eh bien, par exemple, pour un pantalon vendu 10 euros en seconde main, la marque récupère 6 euros d'exonération fiscale. C'est ce qu'ont révélé cette semaine les médias Disclose et Reporter. Dans le cas de Shein, ce sont des intermédiaires qui proposent ces invendus, comme l'explique Floriane Louison, elle est journaliste à Disclose.
On a récupéré, dans le cadre de notre enquête, un témoignage d'une ressourcerie dans le Var qui a reçu une proposition de don de palettes de vêtements Chine directement venus de Chine, des quantités qui sont très importantes, c'est à peu près 20 palettes remplies de vêtements. Pour ça, l'importateur de vêtements va récupérer une exonération fiscale et surtout, ces vêtements neufs, invendus, vont atterrir sur les étals d'une association dont le but, à la base, c'est de donner une seconde vie à nos vieux vêtements, de recycler, de proposer du seconde main, pas du tout, de vendre les surplus de production de l'ultra fast fashion.
Une situation un peu aberrante, effectivement. Et puis, Élodie, il y a une autre ombre au tableau.
En effet, les conditions sociales dans les usines de Chine posent question. Même si la marque a déménagé son siège à Singapour, elle continue de produire encore exclusivement en Chine. Il y a 2 ans, elle a été soupçonnée de se fournir dans des usines qui pratiquent le travail forcé, notamment avec la minorité Ouïghour. Selon l'ONG Public Eye, les employés qui confectionnent des vêtements pour Chine travaillent 75 heures par semaine, avec seulement une journée et demie de repos par mois.
Et que répond Chine à tout ça ?
Alors elle explique qu'elle sélectionne scrupuleusement ses 7000 fournisseurs, que les personnes qui travaillent dans ses usines sont mieux payées que la moyenne en Chine, et que ses fournisseurs doivent répondre à un certain nombre d'engagements, explique Quentin Ruffa, il est porte-parole de Chine en France.
C'est premièrement, interdiction du travail d'enfant. Deuxièmement, interdiction du travail forcé. Troisièmement, le refus de se faire auditer. Ce n'est pas Chine qui audite ces usines, c'est des cabinets d'audit externes. Nous avons réussi en 2024 à auditer 95% de nos fournisseurs. C'est du jamais vu. Et si on se rend compte qu'il y a un sujet de zéro tolérance qui apparaît, nous ne cachons pas la poussière sous le tapis, nous l'indiquons dans notre rapport RSE.
Oui, RSE, c'est-à-dire responsabilité sociétale de l'entreprise, mais ce n'est pas tout, Élodie. Vous avez également découvert que Chine était accusée de contrefaçon par des acteurs de la mode française.
Oui, avec par exemple le cas d'une blouse vendue sur le site de Chine, qui est similaire en tout point à la création d'une designeuse française. Et ce n'est pas un cas isolé, selon Yann Rivoilan de la Fédération du prêt-à-porter féminin.
Il y a des procès avec de très nombreuses marques. Encore dernièrement, avec Lacoste, il y a une procédure civile qui a été mise en place et j'ai à peu près toutes les semaines des copies d'écran qui me sont envoyées avec chaque fois des copies conformes, c'est-à-dire non seulement le produit est copié, mais la photo aussi du produit est copiée. Donc on a derrière des machines qui copient des produits, des machines qui copient des images.
Alors des machines, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui copie le vêtement français et même son image que vous trouvez dans les catalogues. Chine se défend de toute contrefaçon. Je précise que la marque Lacoste a attaqué non pas Chine, mais sa marketplace, c'est-à-dire l'endroit où la marque héberge des créateurs extérieurs. Chine a été condamnée à retirer 14 modèles de son site et à une amende de 30 000 euros. L'enseigne envisage de de faire appel.
Et face à une concurrence que beaucoup de professionnels français du textile jugent déloyale, il y a donc désormais une réaction politique.
Oui, une proposition de loi portée par la députée Anne-Cécile Violant a été votée à l'unanimité à l'Assemblée l'an dernier. Elle vise à réduire l'impact environnemental de la fast fashion en instaurant un système de bonus-malus. Et dans son viseur, en premier lieu, il y a Chine.
Chaque produit va recevoir une note. On peut faire le parallèle avec le Nutri-Score. Et cette note va correspondre à une pénalité que l'entreprise devra payer. Et évidemment, on imagine bien que ces entreprises n'étant pas des philanthropes, ils vont le répercuter sur le prix de vente aux consommateurs. Donc ça, c'est aussi l'idée d'envoyer un signal prix et de dire, bon, peut-être qu'il va falloir réfléchir à notre manière de consommer.
En clair, une pénalité de 10 euros pourrait être réclamée pour chaque produit de fast fashion. L'argent collecté sera destiné à la filière recyclage.
Et comment réagit la marque ?
Eh bien, elle explique qu'elle est plus vertueuse que ses concurrentes, car elle produit moins de déchets. C'est en tout cas ce qu'assure son patron, Donald Tang. Il était interviewé par la chaîne américaine CNBC fin janvier, en marge du forum de Davos.
Nous avons souvent été étiquetés à tort comme une entreprise de mode rapide. En fait, nous ne le sommes pas. Nous sommes une entreprise de mode à la demande. La différence, c'est que les entreprises de mode rapide et les détaillants traditionnels produisent en masse les produits qu'ils veulent que vous portiez. Nous, en revanche, nous produisons les styles que vous voulez que nous fabriquions. Nous fabriquons les articles en fonction du style que vous avez choisi. En confectionnant le modèle à la demande, nous éliminons la plupart des invendus, des stocks inutiles et nous répercutons ces économies sur vous, les consommateurs, et nous vous offrons un bon rapport qualité-prix. Ce sont ces éléments qui nous permettent de fidéliser le consommateur et d'être une entreprise prospère depuis 12 ans.
Oui, donc le discours de Chine, c'est de dire « on ne fait que s'adapter à la demande des consommateurs ».
Oui, et ce message, Donald Tang le martèle, notamment en France. Il était à Paris il y a encore 2 mois, où selon nos informations, il a tenté d'obtenir des rendez-vous auprès de Bercy et du MEDEF, sans succès.
Mais les acteurs de la filière mode, eux, ont accepté de rencontrer le PDG de Chine.
Oui, mais ces entretiens ont été décevants pour Yann Rivoilan de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Et vous allez comprendre pourquoi.
Chine refuse d'avoir la moindre transparence. J'ai rencontré début septembre dernier Donald Tang, le président exécutif de Chine. Je lui demandais justement d'avoir une certaine transparence sur son chiffre d'affaires, sur le nombre de produits fabriqués. Il a refusé de répondre à chacune de ces questions.
Et ces questions, effectivement importantes, Élodie, vous les avez posées au porte-parole de Chine en France.
Oui, en l'occurrence, Quentin Ruffa. Combien de nouveaux produits chaque jour sur le site de Chine ?
Nous ne communiquons pas là-dessus.
Pour quelle raison ?
Parce que c'est une information qui est sous le secret des affaires. Je serais curieux de savoir si mes concurrents communiquent sur le nombre d'articles qu'ils font par collection.
Quel est le chiffre d'affaires de Chine aujourd'hui ?
Nous ne communiquons pas sur le chiffre d'affaires de Chine. Nous sommes une entreprise privée.
Mais selon des estimations de l'agence Reuters, Chine aurait tout de même enregistré un chiffre d'affaires de plus d'1,6 milliard d'euros en France en 2023.
France Inter, secret d'info, Benoît Colomba.
Et en plus des enjeux financiers qui sont considérables pour Chine, Élodie Guéguin, l'entreprise est également très soucieuse de son image.
Oui, et lors de ses rencontres avec les représentants français de la filière textile, par exemple, le PDG de Chine, Donald Tang, a fait appel à une agence de communication de crise, comme nous le raconte Pierre Talamon, le président de la Fédération nationale de l'habillement.
Moi, j'ai rencontré à 2 reprises Donald Tang. Je vais vous le dire, ça a été fait auprès de leur agence de cellules de crise, Plaid, qui appartient au groupe Bolloré. Et on retrouve un dimanche, dans le JDD, un grand article de Donald Tang pour défendre les mérites de Chine.
Ouais, le journal du dimanche, également propriété du groupe Bolloré, on le précise, et il n'y a pas que cette agence de communication de crise, Plaid, qui travaille pour Chine en Europe.
Effectivement, la marque de Mode Express fait aussi appel au service de la puissante agence de relations publiques Image7. Elle a également renforcé son équipe de lobbyistes. Le montant alloué aux affaires publiques auprès de l'Union européenne a été multiplié par 30 ces deux dernières années. Même chose en France, on est passé de 25 000 à 200 000 euros pour des actions de lobbying. C'est clairement une priorité pour eux, constate Jordan Alouche, le fondateur d'Ecolobby, un lobby dédié à la transition énergétique.
Chine a mis le paquet sur les affaires publiques. Ils ont renforcé leur équipe Lobbying France en faisant appel notamment à deux lobbyistes. L'un est passé par un certain nombre de cabinets parlementaires, notamment à droite. L'autre est passé par trois cabinets ministériels. Ils font appel au niveau européen à des lobbyistes confirmés qui sont passés par des très gros lobbies industriels et qui ont de l'expérience.
Et au niveau européen, Chine fait également appel à un homme politique expérimenté.
Oui, un ancien commissaire européen, l'allemand Günther Oettinger. Son portrait avec Sébastien Baer, le correspondant de Radio France à Berlin.
Oettinger a été tour à tour avocat fiscaliste, président de la région du Bade-Württemberg, c'est dans le sud-ouest de l'Allemagne, et puis commissaire européen, d'abord à l'énergie, puis à l'économie numérique, puis au budget. Au total, près de 10 années passées à Bruxelles entre 2010 et 2019, ce qui fait de lui évidemment un homme rompu au rouage de la politique européenne. Oettinger possède, dit-on, un excellent carnet d'adresses. Si vous ajoutez à ce riche réseau l'expertise de Günther Oettinger, eh bien l'ancien commissaire représente une prise de choix pour Chine. Le géant chinois entend d'ailleurs bien profiter de son influence pour peser sur les réformes en cours à Bruxelles. Quand il a quitté la vie politique, Oettinger, qui est aussi membre de la CDU, c'est le parti conservateur du nouveau chancelier Friedrich Merz, a fondé sa société de conseil auprès de Chine. Il se défend d'agir comme lobbyiste, il préfère le terme de consultant, mais un consultant, assure-t-il, dont l'activité de conseil est très limitée, très réduite.
Et en France aussi, Chine a réussi à recruter des personnalités politiques.
Oui, l'enseigne a intégré à son comité RSE trois figures du monde de la politique et des affaires. Vous trouvez Bernard Spitz, ancien président de la Fédération française de l'assurance et vice-président du MEDEF, Nicole Gage, ancienne secrétaire d'État sous Jacques Chirac, mais aussi l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
Et quelle est sa mission exacte ?
Alors c'est la question que j'ai posée au porte-parole de Chine en France, Quentin Ruffin.
Nous avons jugé que Christophe, de par son activité, de par sa connaissance du terrain, Christophe Castaner, avant d'être politique, était dans la société civile, qu'aujourd'hui Christophe Castaner est dans la société civile, pouvait nous aider à mieux comprendre le maillage territorial français sur nos initiatives sociales, économiques et environnementales.
Oui, donc Christophe Castaner est censé aider l'entreprise à mieux comprendre le maillage territorial. On imagine qu'en fait, ça va bien au-delà.
Oui, écoutez à nouveau là-dessus le fondateur d'Ecolobby, Jordan Alouche.
On peut s'interroger sur les conséquences de se payer ce super lobbyiste ou ce super VRP de luxe qui, il y a encore quelques années, était actif au sein d'un gouvernement dont certains membres sont toujours au gouvernement aujourd'hui et qui est l'un des plus proches ou l'un des plus fidèles d'Emmanuel Macron. En réalité, Chine s'offre là les compétences de Christophe Castaner, mais aussi ses réseaux, ses contacts et puis son capital relationnel. Et c'est ça qui fait la différence en général.
Et Christophe Castaner, il est justement monté au créneau au moment de la proposition de loi qu'on évoquait tout à l'heure sur la régulation des plateformes de commerce en ligne.
Oui, et écoutez sa réaction, c'était le 27 janvier dernier au micro de BFM TV.
C'est vraiment un réflexe de feignant de considérer que quand il y a un problème, il faut faire une taxe. Et une chose est sûre, c'est qu'il y a quelques années, il y avait une TVA sur les produits de luxe. Ben là, on est en train d'inventer une TVA sur les produits des plus pauvres. Moi, je trouve ça assez dégueulasse.
Il trouve ça dégueulasse et Christophe Castaner, vous l'avez contacté.
Oui, et lui se défend de faire du lobbying politique pour Shein. Il explique que sa mission consiste, je cite, « à favoriser l'investissement de ce groupe en France et le développement de bonnes pratiques, mais sans donner le montant de la rémunération de sa société de conseil, couverte, selon lui, par le secret des affaires. »
Et cette embauche, elle fait réagir les professionnels de la mode.
Oui, comme le président de la Fédération nationale de l'habillement, Pierre Talamon.
ils sont pas sans savoir, si vous voulez, le combat des fédérations aujourd'hui, que ce soit la Fédération du prêt-à-porter féminin ou la Fédération nationale de l'habillement, toutes les ONG, tous les efforts qu'on fait aujourd'hui pour aller vers une mode plus éco-responsable. Il ne faut pas être sorti d'HEC pour comprendre que quand on fabrique des vêtements à 5 euros ou 10 euros, si vous voulez, c'est dans des conditions qui ne sont pas normales. Donc moi, c'est quelque chose qui me heurte et que je ne comprends pas.
Et dans cette proposition de loi, il y a un autre point contre lequel se mobilisent les géants de la mode jetable comme Shein, c'est l'interdiction de la publicité.
Oui, et notamment par le biais des influenceurs comme Magali Berda, femme d'affaires et agent de figure de la télé-réalité. La semaine dernière, elle postait des vidéos sur les réseaux sociaux pour le compte de Shein.
Bonjour à tous. Comme vous l'avez vu, je suis partie à la rencontre des Français cette semaine. J'ai discuté avec eux, je voulais les entendre sur leurs opinions concernant le projet de loi visant à réduire l'impact écologique du milieu du textile. Et ce que je retiens de nos échanges, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi elle ne vise principalement que Shein et ses clients et non pas les autres enseignes.
Et dans cette vidéo, Élodie, cette influenceuse Magali Berda relaye en fait une campagne de publicité de Shein.
Oui, une campagne XXL avec le message suivant: la mode ne doit pas être un luxe. La marque, conseillée par l'agence de publicité Havas, a aussi lancé un nouveau site internet, de gros moyens destinés à gagner la bataille de l'opinion, constate le président du syndicat Mode in Sud, Jocelyn Maire.
Le gros bazooka que vient de sortir Shein dans la PQR, la PQN, le 4x3, les abribus, plus un site internet de surcroît en .fr. Ils ont vraiment fait les choses comme il faut chez Havas, hein, c'est vraiment top. Moi, je pense que ça devrait être interdit. À force d'ouvrir Instagram, Facebook ou un autre réseau social et de se faire littéralement harceler par cette petite robe noire, tu la veux absolument, ou ce t-shirt blanc, tu le veux absolument, on finit par en être quasiment convaincu, voire même totalement convaincu qu'effectivement, il nous faut ce t-shirt blanc et on l'achète.
Et ce lobbying assez intensif, on l'a bien compris, il s'adresse également aux parlementaires.
Oui, selon nos informations, la quasi-totalité des députés et sénateurs des commissions aménagement du territoire et développement durable ont été contactés. Et parmi eux, le député MoDem Philippe Bollot a accepté un rendez-vous.
J'avais en face de moi des acteurs qui véritablement essayaient de mettre en évidence qu'ils avaient le bon modèle de production et de commercialisation de la mode accessible à tout le monde. C'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels ils insistaient. C'est-à-dire que grâce à eux, chacun pouvait s'habiller sur la planète, quelle que soit sa corpulence, quel que soit son handicap, quelle que soit sa religion, quel que soit son pouvoir d'achat. Les arguments avancés étaient très bien préparés et de nature effectivement à convaincre, mais sur d'autres sujets sur lesquels j'ai voulu les interroger, c'était beaucoup moins évident, et en particulier sur celui de la production de déchets et puis sur celui des microplastiques qui sont produits lorsqu'on lave nos vêtements synthétiques.
Bon, et finalement, cette proposition de loi, qu'est-ce qu'elle est devenue ?
Eh bien, en commission, à l'Assemblée, elle a été adoptée à l'unanimité. Mais au Sénat, c'est une autre histoire. Le texte a été en grande partie réécrit, ce que déplore Pauline de Brabander de l'ONG Zero Waste France.
Le problème, c'est qu'elle a été tellement amoindrie, cette proposition de loi, en commission au Sénat, c'est qu'aujourd'hui, elle est quasiment inapplicable. C'est-à-dire que dans sa version votée, enfin adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, les pénalités et les bonus qui justement permettaient d'encadrer les pratiques de fast fashion étaient appliquées selon l'affichage environnemental, qui est une méthodologie déjà existante, qui justement permet de mettre des bonnes notes aux produits qui sont made in France, produits dans des bonnes conditions, et des mauvaises notes aux produits qui viennent de l'autre bout du monde, expédiés par avion, en fait. Donc ça, c'était très intéressant comme méthodologie. Sauf qu'aujourd'hui, tel que le texte est sorti de la commission aménagement du territoire du Sénat, ces pénalités, elles seront indéquées uniquement sur des pratiques commerciales à définir. En fait, exit l'affichage environnemental, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de renvoi vers un décret. En l'état, ce texte et cet article sont complètement inapplicables.
Alors, est-ce que ça veut dire que les sénateurs ont été plus sensibles que les députés aux arguments de Shein ?
Alors, nous avons rencontré Sylvie Valente-Lehir, la rapporteure du texte au Sénat. Elle se défend d'avoir été influencée par les équipes de Shein. Et si, par exemple, elle a supprimé du texte l'interdiction pour les marques de fast fashion de faire de la publicité, c'est parce qu'elle jugeait que c'était contraire à la liberté d'entreprendre.
Cela dit, les choses peuvent encore bouger, Elodie, puisque le texte va revenir à l'Assemblée.
Oui, et il pourra encore être amendé et redevenir plus contraignant pour la fast fashion. Rien n'est encore joué, estime la députée Horizon Anne-Cécile Violent.
Je sais qu'il faut résister parce qu'ils ont sorti la grosse artillerie. Le gouvernement est censé inscrire cette loi sur son temps avant la fin de l'été. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il sera intéressant de pouvoir s'interroger effectivement sur les motivations profondes de ce non-respect de cet engagement.
Et j'ajoute que dans ce contexte, Chine vient d'obtenir le feu vert des autorités britanniques pour faire son entrée à la Bourse de Londres.
Merci Élodie Guéguin pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France. On va s'arrêter là pour le moment, mais surtout restez avec nous. Dans un instant, nous allons revenir sur un secret d'État, comment la France a utilisé l'arme chimique durant la guerre d'Algérie.
Special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. Girl,
Pony Club, un titre composé par l'américaine Chappell Roan en 2020, avant l'album qui allait la révéler au monde entier, The Rise and Fall of a Midwest Princess.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Et nous recevons à présent Claire Billet, vous êtes la réalisatrice pour France 5 du documentaire Algérie, section armes spéciales, une enquête de 52 minutes qui révèle l'utilisation par la France d'armes chimiques pendant la guerre d'Algérie. On peut vraiment parler de secret d'État ?
On peut parler de secret d'État parce que les opérations d'usage des armes chimiques étaient faites par des sections grottes et que c'était classé secret défense à l'époque. Ce qui explique aussi en partie pour quelles raisons le secret a été gardé si longtemps.
On parle de grotte, puisque l'idée de l'armée, c'est de déloger les combattants algériens réfugiés dans des grottes.
Exactement. Moi, ce qui m'a intéressé à l'époque, c'est qu'il y a une véritable stratégie qui est mise en place par l'état-major, avec l'aval et l'autorisation du ministère de la Défense à l'époque, pour essayer effectivement de combattre les combattants indépendantistes algériens retranchés dans tout ce qui est souterrain. Avec un usage d'armes chimiques à l'époque interdite.
C'est vraiment une révélation très, très forte de votre documentaire. Vous parlez de stratégie. Effectivement, ce qu'on voit, ce qu'on comprend, c'est que l'utilisation de cette arme, elle va être théorisée, en fait, par l'état-major français. Donc là, on est en 1956. Et il y a donc une unité spéciale dédiée aux armes chimiques qui va être créée. On parle d'armes spéciales.
Oui, des essais sont faits pour utiliser des gaz un peu différents, les faire évoluer, transformer des gaz toxiques.
Oui, il y a une montée en puissance en fait. Il y a d'abord une expérimentation et ensuite une généralisation de ces gaz toxiques.
Ouais, c'est le travail de l'historien Christophe Lafaille, sans qui le film n'existerait pas, qui a découvert ça en fouillant dans les archives administratives militaires. Et en fait, cette montée en puissance, c'est-à-dire que c'est un des atouts stratégiques tactiques de l'armée qui n'était pas connu encore à ce jour avec les autres, c'est-à-dire avec l'usage de la torture, avec les déplacements massifs et forcés de population. Mais cet atout-là, militaire, donc cette composante-là de la guerre, cet aspect aussi interdit, on ne le savait pas, on ne le connaissait pas.
Christophe Lafaille, hein, c'est, vous venez de le dire, cet historien qui travaille depuis des années sur le sujet, mais on voit que c'est compliqué, c'est difficile. Il essaye d'avoir accès aux archives, mais il y a peu d'archives déclassifiées.
Oui, en fait, c'est un travail de fourmi qui est pénible et laborieux, en vérité, parce que c'est le service historique de la Défense, mais pas que, évidemment, qui conserve les archives administratives militaires. Ça signifie qu'il faut fouiller dans des cartons sans savoir où sont les documents. Certains sont classifiés par le secret Défense, d'autres pas. Ils restent fermés, l'historien fait appel, certains cartons sont ouverts. Il va avoir une commission administrative dédiée pour faire ces appels. Donc c'est vraiment un travail très pénible. Mais rien qu'à travers cette recherche-là, et les documents qu'il nous a montrés, lui, on voit exactement la stratégie se mettre en place.
Et pour documenter cette histoire secrète, finalement, vous vous appuyez également sur des fonds privés ou des journaux de marche, c'est-à-dire des carnets d'anciens combattants français.
Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont dépassé la censure de l'époque ou le secret défense. Et donc, les anciens appelés français ont conservé des documents militaires. Donc, si on va chez les gens, qu'on trouve ces documents...
Oui, il y a une trace de cette histoire dans leur cave ou leur grenier.
Partout. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est symbolique de la question de la guerre d'indépendance algérienne, en fait, en France. C'est qu'elle est partout dans les mémoires. Les journaux de marche, c'était simplement des comptes rendus d'unités. Les soldats ne racontaient pas tout nécessairement, hein, mais dans lequel ils décrivaient leurs opérations.
Et ce gaz, ces gaz toxiques, c'est notamment le CN2D, c'est-à-dire c'est un mélange d'un gaz dérivé du cyanure et de l'arsenic.
Oui, c'est très difficile à prononcer, c'est le diphényl-aminochloroarsine qui est létal en milieu clos très rapidement. Des Français racontent ce que ça fait de l'utiliser. Ça nécessite un grand courage d'en parler. Et il y a les Algériens derrière qui sont d'un grand courage pour évoquer les souffrances que ça a provoquées à la fois chez ceux qui ont été victimes de ces gaz et chez ceux qui ont vu les gens mourir autour d'eux, parce que ceux qui peuvent parler aujourd'hui étaient enfants à l'époque ou adolescents, vous voyez.
Mais quel est l'objectif poursuivi par l'armée française? Ça va au-delà de faire sortir des combattants algériens des grottes.
Oui, oui. En fait, il y a un ancien combattant qui le décrit assez bien. C'est comme de la poussière. En fait, l'idée, c'était d'avoir un gaz lourd qui restait accroché aux parois, comme ça, quand des gens venaient, ou des animaux, hein, le fait d'avoir du mouvement dans la grotte ressoulevait le gaz. Et en fait, ça rendait les lieux inhabitables.
Infecter les grottes, c'est l'objectif.
Le terme militaire, c'est infection.
Et les personnes qui viennent se réfugier là, ce sont aussi parfois des civils.
Oui, oui, bien évidemment. Les gens qui fuyaient avaient peur de l'armée française. Il n'y avait pas que des combattants. Il y a des gens qui ne voulaient pas être appelés à combattre, qui ne voulaient pas être prisonniers, qui étaient opposés politiquement sans avoir pris les armes. Il y avait des femmes, des enfants. Donc effectivement, là, quand on est allé en Kabylie, dans les Aurès aussi, mais dans les Aurès, il y a une grotte en particulier à Khalouchetour, où des civils sont morts en grand nombre, et notamment des enfants. Il y avait une femme aussi dans la grotte.
C'est difficile d'avoir des chiffres précis, mais je crois qu'il est question de 440 lieux qui ont été localisés, qui sont concernés par l'utilisation de ces gaz, mais c'est certainement un chiffre qui est sous-évalué.
Complètement. Mais en fait, on est au tout début des travaux de recherche sur le sujet. Donc moi j'ai fait en tout cas réaliser un film qui raconte ça, mais on en est au début, on ne sait pas. L'ampleur de l'usage exactement pour le moment, c'est des estimations. C'est-à-dire que les 400 et quelques opérations certifiées qui ont eu lieu sont celles recensées par Christophe Lafaille avec certitude. Ensuite, il faut que les archives soient entièrement ouvertes et il en manque encore.
Ce qui est loin d'être le cas, puisque depuis 2019, une grande partie de ces archives s'est refermée.
Exactement. En fait, depuis 2019, les archives ont été refermées. Il y a aussi un amoncellement de lois. Il y a un manque de moyens aussi pour pouvoir véritablement déclassifier. Ça fait des décennies que c'est compliqué, la question des archives et de la guerre d'Algérie. Mais...
Et le même historien, Christophe Lafaille, estime entre 8000 et 10000 Algériens qui aurait été tué suite à l'utilisation de ces armes.
Oui, mais c'est pareil, c'est une estimation. En fait, on parle probablement de milliers d'opérations. Il y a un ancien combattant des sections armes spéciales qui dit « on était des milliers ».
Et vous montrez également dans votre documentaire comment des soldats français ont été victimes aussi de l'utilisation de ces gaz.
Oui, la question du non-dit, c'est pas que les archives fermées, c'est pas que le silence dans les familles, c'est aussi... un ancien combattant, en fait, qui a été blessé. Mais il n'est pas le seul, hein. Il y en a plusieurs qui m'en ont parlé, mais on n'en a fait parler sur ce sujet qu'un seul dans le film, qui a été blessé parce que le masque s'est arraché. Et l'idée de raconter ça, c'est aussi de montrer ce que ça signifie quand on est blessé vraiment. Aujourd'hui, quand il a fait une demande de pension en tant que blessé, à cause des armes chimiques, l'institution militaire ne comprenait pas, en fait, c'était secret défense. Et il n'est pas le seul. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont déjà décédés. Donc, ils n'ont pas pu demander leur pension. Donc, il y a aussi une question de silence, de tabou. Donc, il y a ce silence-là, ce secret, il englobe une multitude de silences, au pluriel, en fait.
Alors, ce documentaire, il faut le dire aussi, il devait normalement être diffusé en mars dernier sur France 5, avant d'être finalement déprogrammé. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, en fait, il a été déprogrammé, on m'a dit, parce que il y avait des questions d'actualité qui se jouaient. Et moi, je suis journaliste, je comprends tout à fait l'urgence de la guerre en Ukraine, en Russie. Et on vient d'apprendre qu'il serait diffusé à la télévision le 8 juin, donc on est ravis. Et il était en ligne sur le site de France Télévisions dès l'annonce de la déprogrammation.
Donc on peut le voir en ligne, et donc le 8 juin prochain sur France 5, c'est
voilà.
Bien ça.
Voilà, je pense qu'il est important de continuer à raconter le passé colonial de la France, parce qu'il a des répercussions aujourd'hui, et à mon sens, on l'oublie beaucoup trop.
Merci Claire Billet. Votre enquête avec Olivier Jobard, Algérie section armes spéciales, sera donc diffusée le 8 juin prochain sur France 5 et elle est d'ores et déjà visible sur le site de France Télévisions. Et je précise que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview en format XXL sur notre site et sur l'appli Radio France. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique Adèle Caglar et Élise Christophe. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.